Chapitre 9. Métro. Jubilee et Baker Lou, Circle et District. Kumiko examina le petit plan plastifié que Pétale lui avait donné et frissonna. Le froid semblait irradier de la plateforme de béton à travers les semelles de ses bottes.
Qu'est-ce que c'est vieux, putain ?
Dit Sally Cheers, les yeux dans le vide, ses lunettes reflétant un mur convexe recouvert de rectangles de céramique blanc.
Pardon ?
Le métro. Sally avait noué une nouvelle écharpe écossaise sous son menton, et une vapeur pâle sortait de sa bouche quand elle parlait.
Tu sais ce que je trouve bizarre ? C'est qu'ils rajoutent parfois des carreaux dans ces stations, mais sans enlever les précédents. Lorsqu'ils font un trou dans le mur, pour atteindre des câbles, on distingue plusieurs couches de céramique.
Et alors ?
Bah, ça devient plus étroit, non ? C'est comme l'artériosclérose.
Oui, dit Kumiko d'un air dubitatif. D'accord. Ces garçons-là, que représentent leurs costumes, s'il vous plaît ?
Ce sont des Jacks. Des Jack Dracula.
Les quatre Jack Dracula étaient blottis comme des corbeaux sur la plateforme d'en face. Ils portaient des imperméables noirs ordinaires et des bottes de l'armée cirées, dont les lacets remontaient jusqu'aux genoux. L'un d'eux se tourna pour parler à un autre, et Kumiko vit ses cheveux tirés vers l'arrière jusqu'à une tresse retenue par un petit nœud noir.
« Ils l'ont pendu, » dit Sally, « après la guerre. »
« Qui ?»« Jack Dracula. Il y a eu quelques pendaisons publiques à la fin des hostilités. Mieux vaut ne pas s'approcher des Jack. Ils détestent tout ce qui est étranger. Kumiko aurait aimé accéder à Colline, mais l'appareil Maas Neotech était coincé derrière un buste de marbre dans la pièce où Pétale leur servait leur repas. Et puis le train arriva et la stupéfia avec le tonnerre archaïque des roues sur les rails d'acier. Sally Cheers, devant le décor bigarré de l'architecture de la ville, ses lunettes reflétant la confusion de Londres, chaque période interrompue par une crise, un incendie, la guerre. Kumiko, déjà perdue par trois changements de métro rapides et apparemment aléatoires, se laissa emporter dans une série de trajets en taxi. Elle descendait d'un véhicule, entrait dans le grand magasin le plus proche, puis prenait la première sortie disponible vers une autre rue et un nouveau taxi.
« Harrods !»
annonça Sally à un moment, tandis qu'elle traversait d'un bon pas un hall décoré aux murs carrelés et aux piliers de marbre. Kumiko s'étonna d'épais rôtis et jambons rouges proposés sur des comptoirs de marbre à étages et se dit qu'ils devaient être en plastique. Puis, elles sortirent de nouveau et Sally appela le prochain taxi.
« Covent Garden !»
lança-t-elle au chauffeur. « Pardon, Sally, mais que faisons-nous »«
On se perd !»
Sally buvait un hot brandy dans un minuscule café sous la verrière parsemée de neige de la place. Kumiko avait pris un chocolat.
Nous sommes perdus, Sally ?
Ouais.
Je l'espère, en tout cas.
Elle paraît plus vieille aujourd'hui, se dit Kumiko. Des rides de stress ou de fatigue autour de la bouche.
C'est quoi votre métier, Sally ? Votre ami a demandé si vous étiez toujours à la retraite.
Je suis une femme d'affaires.
Et mon père est un homme d'affaires ?
Ton père est un homme d'affaires, en effet.
Non, pas comme ça.
Je suis indépendante.
Je m'occupe surtout d'investissement.
Et vous investissez dans quoi ?
Sur d'autres indépendants.
Elle haussa les épaules.
Tu es bien curieuse aujourd'hui.
Elle but un peu de brandy.
Vous m'avez conseillé de devenir ma propre espionne.
Un bon conseil, mais il faut s'y prendre avec un peu plus de tact.
Vous vivez ici, Sally ? À Londres ?
Je voyage.
Swain est un dé, lui aussi ?
C'est ce qu'il croit.
Il fait plus dans l'influence, il pointe dans la bonne direction, c'est nécessaire ici pour les affaires.
Ça m'exaspère.
Elle avala le reste de son brandy et se lécha les lèvres. Kumiko frissonna. Inutile d'avoir peur de Swain. Yanaka n'en ferait qu'une bouchée.
Non. Je repensais à ces garçons dans le métro. Tellement maigres.
Les Dracula.
Un gang ? Un beau Sozoku, dit Sally avec une prononciation correcte. Un clan de motards? Un genre de tribu, quoi. Ce n'était pas le bon mot, mais Kumiko crut comprendre la différence. Ils sont maigres parce qu'ils sont pauvres. Elle fit signe au serveur de lui apporter un deuxième cognac. « Sally, dit Kumiko, pour venir ici, l'itinéraire qu'on a emprunté, les métros et les taxis, c'était pour s'assurer que personne ne nous filait. » On n'est jamais sûr de rien. Mais quand nous sommes allés voir Tic, vous n'avez pris aucune précaution. Nous aurions pu tout aussi bien être suivis. Vous engagez Tic pour espionner Swain, mais vous ne faites pas attention. Vous m'emmenez ici et vous vous montrez très prudente. Pourquoi ? Le serveur posa un verre fumant devant elle. T'es une petite maline, toi, hein ? Elle se pencha en avant et inhala la vapeur du brandy. C'est comme ça, c'est tout. Avec Tic, j'essaie peut-être seulement de secouer le cocotier. Mais Tic a peur que Swain le découvre. Swain ne lui fera rien, pas s'il sait qu'il travaille pour moi. Pourquoi ? Parce qu'il est au courant que je suis capable de le tuer. Elle leva son verre, l'air brusquement plus enjoué. Tuer Swain ? Parfaitement. Elle but. Alors pourquoi avons-nous été prudentes aujourd'hui ? Parce que ça fait parfois du bien de se défaire de tout ça, de prendre l'air. Nous n'avons peut-être pas réussi, mais peut-être que si. Peut-être que personne au monde ne sait où nous sommes. C'est agréable, non ? Si ça se trouve, tu es sous surveillance, tu y as déjà pensé ? Peut-être que ton père, le grand chef Yak, t'a implanté un mouchard pour pouvoir suivre sa fille. Tu as de très belles dents. Peut-être que le dentiste de papa t'a inséré une petite puce pendant que tu étais dans une steam. Tu vas chez le dentiste ? Oui. Tu t'immerges dans une steam pendant qu'il bosse. Oui. Et voilà. Si ça se trouve, il est en train de nous écouter, là. Kumiko manqua de renverser le reste de son chocolat chaud. Hé ! Les ongles vernis tapotèrent le poignet de Kumiko. Ne t'en fais pas, il ne t'enverrait pas ici comme ça avec une puce. Ça te rendrait trop facile à suivre pour ses ennemis. Mais tu as pigé ce que je veux dire. C'est bien de s'arracher à tout ça, ou d'essayer en tout cas. De se retrouver seul, tu comprends ? Oui, dit Kumiko, le cœur tambourinant toujours dans la poitrine, la panique s'intensifiant. Il a tué ma mère, avoua-t-elle avant de vomir son chocolat sur le sol de marbre gris du café. Sally la conduisait par-delà les colonnes de Saint-Paul, marchant sans dire un mot. Kumiko, encore ébranlée par la honte, enregistrait des informations au hasard. La peau de mouton blanche qui doublait le manteau de cuir de Sally, l'éclat huileux arc-en-ciel des plumes d'un pigeon qui s'éloignait en se dandinant, des bus rouges comme des jouets de géants au musée des transports, Sally qui se réchauffait les mains autour de la tasse en polystyrène d'un thé fumant. Il ferait toujours froid désormais. L'humidité glaciale dans les eaux antiques de la ville, les eaux gelées du Sumida qui avaient empli les poumons de sa mère, le vol marmoréen des grues de néon. Sa mère était fine et brune, son épaisse chevelure parsemée de mèches dorées, comme un bois tropical rare. Sa mère sentait le parfum et la peau chaude. Sa mère lui racontait des histoires sur des elfes, des fées et Copenhague, une ville lointaine. Quand Kumiko rêvait des elfes, ils étaient comme les secrétaires de son père, souples et guindés, avec des costumes noirs et des parapluies repliés. Les elfes faisaient toutes sortes de choses étranges dans les contes de sa mère, et les histoires étaient magiques parce qu'elles changeaient à chaque fois, et qu'on ne pouvait pas vraiment savoir comment elles se termineraient un soir donné. Il y avait aussi des princesses dans les récits et des ballerines qui, avait compris Kumiko, étaient tout un peu sa mère. Les princesses ballerines étaient belles, mais pauvres, et dansaient au cœur de la ville lointaine où elles étaient courtisées par des artistes et des poètes étudiants, magnifiques mais désargentées. Afin de subvenir aux besoins d'un parent âgé ou d'acheter un organe pour un frère malade, les princesses ballerines étaient parfois obligées de voyager très loin, certaines jusqu'à Tokyo, pour danser contre rémunération. Danser pour de l'argent, sous-entendait les contes, n'avait rien d'agréable. Sally l'emmena dans un bar, arrobata d'Earlscourt et la força à boire un verre de saké. Un aileron de fougou fumé flottait dans le vin chaud, lui donnant la couleur du whisky. Elles mangèrent des robata cuites au barbecue et Kumiko sentit le froid se dissiper, mais pas la torpeur. Le décor du bar provoquait une intense sensation de désorientation culturelle, proche du style japonais traditionnel. Il rappelait également le design de Charles Rennie Mackintosh. Elle était très étrange, Sally Cheers, plus étrange que tout le Londres des Gaijin. Elle racontait désormais des histoires à Kumiko à propos de gens qui vivaient dans un Japon que Kumiko n'avait jamais connu, des récits qui définissaient le rôle de son père dans le monde. Elle l'appelait l'Oyabun. L'univers que lui décrivait Sally ne paraissait pas plus réel que celui des contes de fées de sa mère, mais Kumiko commença à comprendre sur quoi reposait le pouvoir de son père, ainsi que son étendue. Kurumaku, déclara Sally. Cela signifiait rideau noir. Cela vient du kabuki et veut dire combinard, quelqu'un qui vend des services, mais en coulisses. Tu piges ? Ton père en est un. Swain aussi. Mais Swain est le kobun de ton vieux. Ou l'un d'entre eux, en tout cas. Oyabun kobun, parent, enfant. C'est en partie comme ça que Roger s'approvisionne. C'est pour ça que tu te retrouves ici. Parce que Roger le doit à l'Oyabun. Le guiri, tu comprends ? Il est haut placé dans la hiérarchie. Sally secoua la tête. Ton vieux, il est en plein dedans, Kumi. S'il a été obligé de t'éloigner de la ville pour assurer ta sécurité, c'est que de gros changements s'annoncent.
Vous êtes allé vous rincer le gosier ?
Demanda Pétale lorsqu'elles entrèrent dans la pièce, les rebords de son monocle renvoyant l'éclat de la lampe Tiffany, un arbre en bronze et vitrail qui poussait sur le buffet. Kumiko avait envie de jeter un coup d'œil au buste qui cachait l'appareil Maas Néothèque, mais elle s'efforça de tourner le regard vers le jardin. La neige avait pris la couleur du ciel de Londres.
« Où est Swain ?» demanda Sally.
« Le patron est sorti !»
lui annonça Pétale. Sally s'approcha du buffet et se servit un verre de whisky à une lourde carafe. Kumiko vit Pétale grimacer lorsqu'elle la reposa sans ménagement sur le bois ciré.
« Des messages ?»«
Non. Il est censé rentrer ce soir ?»
« Je n'en sais rien. Vous voulez dîner ?»«
Non. »«
J'aimerais bien un sandwich, » dit Kumiko.
Un quart d'heure plus tard, le sandwich intact sur le marbre noir de la table de nuit, elle était assise au milieu de l'immense lit. L'unité Maas Néothèque entre ses pieds nus. Elle avait laissé Sally boire le whisky de Swain, les yeux fixés sur le jardin gris. Elle prit l'appareil et Colin apparut au pied du lit. «
Personne ne peut entendre ce que je dis », déclara-t-il aussitôt en posant un doigt devant ses lèvres.
« Et c'est tant mieux parce qu'il y a des micros dans la chambre. »
Kumiko s'apprêtait à répondre, mais elle se contenta d'un hochement de tête.
« Bien, » dit-il. « Vous êtes maligne. J'ai deux conversations à vous proposer. Une entre votre hôte et son secrétaire, l'autre entre votre hôte et Sally. La première date d'un quart d'heure après que vous m'ayez caché en bas. Écoutez. »
Kumiko ferma les yeux et entendit le cliquetis d'un glaçon dans un verre de whisky.
« Où est notre petite japonaise ?» demanda Swain.
« Couchée pour la nuit, » dit Pétale. « Elle parle toute seule. Elle se fait la conversation.
Bizarre. Et elle dit quoi ?»«
Pas grand-chose, en fait. »
Certains ont cette habitude.
Laquelle ?
De parler tout seul.
Vous voulez l'écouter ?
Oh non. Où est la délicieuse mademoiselle Cheers ?
Partie se promener.
Appelle Bernie la prochaine fois. On voit ce qu'elle fout pendant ses petites balades.
Bernie ?
Et Pétale éclata de rire.
Il finira entre quatre planches.
Swain s'esclaffa à son tour.
« Ce ne serait pas plus mal, remarque, d'être débarrassé de Bernard et d'avoir étanché la soif de la célèbre porte-lame. »«
Tiens, serre-nous-en un autre. »«
Pas pour moi. Je vais me coucher, sauf si vous avez encore besoin de moi. »«
Non, » répondit Swain.
« Donc, » dit Colin, tandis que Kumiko ouvrait les yeux et le découvrait toujours assis sur le lit.
Il y a un micro à activation vocale dans votre chambre. Le secrétaire a écouté l'enregistrement et vous a entendu me parler. Notre deuxième extrait est encore plus intéressant. Votre hôte est installé avec son deuxième whisky quand débarque Sally.
« Salut !» entendit-elle dire Swain. « Vous preniez l'air ?
Allez vous faire foutre. »
« Vous savez que rien de tout ceci n'est mon idée, » expliqua Swain. « Il ne faudrait pas l'oublier.
Vous savez qu'ils me tiennent moi aussi, par les couilles. »
« Vous savez, Roger, j'ai parfois envie de vous croire. »«
Vous devriez. Ça simplifierait les choses. »«
À d'autres moments, j'ai envie de vous égorger. »«
Votre problème, ma chère, c'est que vous n'avez jamais appris à déléguer. Vous voulez tout faire vous-même. »«
Écoutez,
connard. » Je sais d'où vous sortez et comment vous en êtes arrivé là. Et j'en ai rien à foutre que vous léchiez le cul de Yanaka ou de je ne sais qui. Sarakin.
Kumiko n'avait encore jamais entendu ce mot.
Je viens d'avoir des nouvelles d'eux, dit Swain sans changer de ton.
Elle est toujours sur la côte, mais elle va sans doute bientôt bouger vers l'est, probablement, dans votre ancienne demeure.
Je crois que c'est notre meilleure chance dans la maison. Impossible. La sécurité privée y arrêterait une petite armée.
Vous essayez toujours de me dire qu'il s'agit d'un simple kidnapping, Roger ?
Qu'ils vont l'enlever pour obtenir une rançon ?
Non. Il n'a jamais été question de la rendre. Alors pourquoi ils n'embauchent pas cette armée ?
Et aucune raison qu'elle soit petite, pas vrai ?
Ils n'ont qu'à engager des mercenaires, ceux qui s'occupent des extractions d'entreprises.
Ce n'est pas une cible si difficile, en tout cas pas plus qu'un chercheur de renom.
Qu'ils envoient les pros pour...
Pour la centième fois, ils n'en ont pas l'intention.
C'est vous qu'ils veulent.
Comptent-ils sur vous, Roger ?
Et vous devez bien savoir ce qu'ils ont sur moi.
Non, mais d'après ce qu'ils ont sur moi, j'ai ma petite idée.
Ah oui ?
Tout.
Pas de réponse. Une autre possibilité, dit-il, est apparue aujourd'hui. Ils veulent faire croire qu'elle a été éliminée.
Quoi ?
Ils veulent faire croire que nous l'avons tuée.
Et comment est-on censé faire ça ?
Ils fourniront un cadavre.
J'imagine,
dit Colin, qu'elle a quitté la pièce sans rien dire.
Ça s'arrête là.